Bienvenue dans ce troisième et dernier module MVA consacré aux merveilleuses technologies SVG, Canvas 2D et WebGL. Donc ce cours sera consacré cette fois-ci à la découverte de quelques librairies qui vont faire gagner du temps, que ce soit du côté SVG, Canvas ou WebGL. Et donc je ne vais pas passer en revue détaillée comment utiliser les librairies, mais c'est vraiment pour vous apprendre à vous servir de certaines de ces technologies et surtout d'avoir la bonne démarche pour apprendre à les découvrir. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc ce module s'inscrit dans ce cours complet où nous avions vu dans le premier module les bases réelles de chacune des technos, vraiment les fondements pour comprendre comment elles fonctionnaient, et c'était assez simple d'approche, je pense, accessible à tout le monde. Ensuite, on a vu comment faire son choix entre le côté vectoriel de SVG et le côté très rapide et dynamique de la balise Canvas, mais c'était également une boîte noire pour l'accessibilité. Donc il y a un pléthore de scénarios d'usage avec des scénarios de recouvrement, donc ça vous pouvez le découvrir dans le module 2. Et cette fois-ci, quelques librairies que j'ai retenues, hein, il en existe beaucoup, mais j'ai décidé de faire un focus sur certaines d'entre elles. Donc plutôt que de faire ça avec plein de slides assez chiants finalement, j'ai décidé de rentrer tout de suite à travers des démos dans le navigateur, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va commencer par aller découvrir une librairie qui est vraiment top, qui s'appelle RaphaelJS. Donc vous retrouvez sur raphaeljs.com, où vous pouvez voir un ensemble de démonstrations sur ce site. Donc on va y revenir juste après. Mais je me suis dit plutôt que de lancer Visual Studio, Sublime Text, peu importe, je vais vous montrer un autre outil en ligne qui est très pratique pour tester les librairies comme celle-là, qui s'appelle jsfiddle.net. Donc je sais pas si vous connaissez, mais à ce moment-là, rendez-vous sur cette URL. Hop, jsfiddle.net. Et vous allez voir que son fonctionnement est assez sympathique, c'est-à-dire que vous avez trois zones. Une zone où vous allez décrire votre document HTML, une zone où vous allez mettre le CSS éventuellement associé, et une dernière zone où on va mettre le JavaScript qui va piloter tout ça, et on aura le résultat en bas à droite. Et donc, non seulement c'est pratique parce que ça permet de référencer directement des librairies sans avoir à installer un serveur web ou lancer un certain nombre de choses, mais en plus vous pouvez sauvegarder, vous voyez, l'URL ici, pour la partager ensuite avec des groupes de discussion, des collègues, pour discuter d'exemples que vous ne comprenez pas, au contraire, de montrer fièrement ce que vous avez réalisé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va référencer une librairie. Donc vous voyez, il y en a pléthore déjà disponible. Et on va utiliser RaphaelJS, qui permet donc de faire du SVG. Une fois que j'ai fait ça, pour que Raphaël fonctionne, il faut un élément HTML dans lequel s'injecter. Donc on va prendre une bête div qu'on va appeler MVA pour Microsoft Virtual Academy. Je ferme ma div. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais devoir piloter la librairie Raphael avec un peu de script. Alors pour gagner du temps, j'ai bien évidemment déjà prévu quelques scripts. Hop, que je vais aller copier-coller dans une fenêtre que vous ne voyez pas. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je le colle ici et je vous invite à faire pause sur la vidéo et à regarder un petit peu le code qui est assez simple, hein. Donc la première ligne de code finalement instancie quelque part le moteur Raphael. Donc je reprends la balise que j'ai décrite ici qui est MVA et je vais créer une zone de dessin, un canvas de dessin de 400 par 300. À l'intérieur, je vais dessiner un rectangle avec les différentes propriétés. Donc je vais le déplacer en 10 par 10 jusqu'à 50 sur 50. Donc ça, c'est les positions X, Y qui nous intéressent. Le cercle que je vais dessiner. Et ensuite, je vais le remplir avec l'attribut fill. Donc le premier élément en vert et le deuxième élément en bleu. Je lance tout ça. Et donc on voit bien le résultat auquel on s'attendait. Donc ça évite de déclarer le SVG et d'être entièrement piloté par une balise de script, donc c'est assez pratique. Et si je lance la barre F12 du navigateur et que je fais comme d'habitude, que je dock les différentes fenêtres, si je vais parcourir la forme qui est ici, je vais tomber dans le DOM. Alors ça, vous commencez à avoir l'habitude si vous avez suivi les différents autres cours, c'est que j'ai bien une déclaration SVG qui a été faite. Donc ça a été fait par la balise, par la librairie Raphael, et ensuite on voit bien qu'il a créé les différentes balises SVG pour vous sans avoir à connaître finalement le langage XML associé. Alors en contrepartie, bien sûr, cela implique de connaître la librairie Raphael en elle-même, donc vous avez la documentation qui est disponible, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors, il y a pas mal d'autres choses qui sont disponibles, j'ai un autre exemple que j'ai sous la main, donc je vous invite aussi à recopier en regardant le code source qui est ici, où on voit finalement qu'on peut enchaîner des animations. Donc ça, c'est vraiment... Le fonctionnement de Raphael me fait penser un peu à jQuery dans son usage, c'est que vous allez pouvoir enchaîner un ensemble d'instructions comme un flot d'instructions les unes derrière les autres, c'est assez pratique. Et là, ce qu'on va voir, par exemple, c'est la gestion d'animation. Donc si je lance tout ça, un click me qui est ici. Et donc si je clique sur le cercle en question, je vais animer avec la propriété transform de mon cercle pour faire un scale x2, ce qu'on voit là, S2.0, avec le temps de l'animation, le type de courbe d'animation associée, donc la linéaire. Donc si je clique dessus, on a bien l'animation linéaire qui va doubler la taille de mon cercle, avec à la fin un petit message d'alerte qui dit bah, c'est terminé et tu as bien rempli ta fonction. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple d'usage. Ça me rappelle un petit peu aussi les débuts de Flash sur ce genre d'animation. Vous pouvez voir sur le site le côté vectoriel et des transformations d'une forme vers l'autre. Donc c'est vraiment très connu, Raphael. N'hésitez pas à l'utiliser avec JS Fiddle. Alors, on va retourner sur le site de Raphael pour voir un peu comment ça fonctionne. Et on va prendre un des exemples, qui est celui-ci, que j'aime bien. Et on va commencer par regarder à nouveau avec la balise SVG, comment ça fonctionne tout ça. Donc je vais prendre un des cercles ici. On voit bien que j'ai une description de type SVG qui est entièrement faite par la librairie Raphael. Mais cette fois-ci, si je demande avec toujours cette touche F12 de basculer le moteur de rendu d'Internet Explorer ici en IE8, donc c'était avant l'arrivée du support de HTML5 et de SVG. On a pourtant notre script qui continue de fonctionner, le résultat visuel qui continue de fonctionner. Pourtant, si je vais voir maintenant le DOM pour voir ce qu'il y a à la place de ce SVG, et que je parcours ici par exemple cette forme, vous voyez que cette fois-ci, ce n'est plus du SVG, on est dans une div, et on a des shapes avec classe RVML, donc c'est du VML qui est utilisé, qui était un ancien langage finalement de XML, de description vectorielle également, qui était supporté par Internet Explorer avant Internet Explorer 9 et le standard SVG. Ça veut dire quoi? C'est que si jamais vous utilisez cette librairie en production aujourd'hui, même si oh, fort heureusement il y a de moins en moins d'IE8 en circulation, il peut vous en rester en intranet, et bien vous pouvez sereinement utiliser cette librairie et commencer à goûter aux joies du SVG. Si jamais il y a un vieil IE8 qui arrive, il sera quand même servi avec un fallback de type VML. Donc ça c'est vraiment top et c'est un boulot quand même qui est appréciable du développeur hein, parce que c'est quand même un boulot de titan de s'amuser à supporter le double moteur de rendu comme ça. Maintenant regardons un petit peu le comportement de cet exemple. Donc vous voyez qu'il y a des rebonds de type bounce, donc ça rebondit, et que lorsque je clique sur un cercle automatiquement la forme y va. Donc si je regarde maintenant le code source, vous allez voir que pour faire ça, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lignes de code. Donc en fait, il y a la nécessité de déclarer un holder, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre div qui avait l'ID MVA, bah c'est le même principe. Donc j'instancie ensuite la librairie Raphael sur cette div-là. Et là, on voit qu'on s'amuse à récupérer une couleur. Donc cette instruction, allez voir la documentation, on va récupérer une couleur automatiquement dans un spectre, ce qui nous donne les différentes couleurs qu'on voit ici. Il va prendre la prochaine couleur disponible. Et je vais dessiner un cercle à une position particulière et je lui associe un certain nombre d'actions. C'est-à-dire que quand je vais passer la souris au-dessus d'un cercle, comme on le voit ici, vous voyez, ça change légèrement la couleur. Donc c'est le code ici qui est mis en place avec un délai de 500 millisecondes. Et de la même manière, quand je sors la souris, bah, il fait un mouvement d'opacité inverse, on va dire, par rapport à ce qui était positionné à l'origine. Et pour terminer, je vais avoir la possibilité de faire bouger ma petite forme d'un cercle vers l'autre avec ce morceau de code qui est mis en place. Donc, vous voyez, en très peu de lignes de code, on obtient un résultat qui aurait peut-être été un peu galère si vous avez dû le faire vous-même avec la création de nœuds SVG dans le DOM. Donc, c'est une librairie qui est vraiment sympathique. Et si vous voulez vous amuser à aller modifier ça, bah, à nouveau, vous avez qu'à prendre le code qui est ici. Hop, à pas vous planter dans un copier-coller. Vous allez sur JS Fiddle. Vous référencez à nouveau la librairie Raphael. Vous créez l'ID qui va bien. Alors je vais la rappeler MVA et je vais devoir changer le code que j'ai copié-collé puisqu'il ne s'appelait pas comme ça. Hop, je l'appelle cette fois-ci MVA. Et si je lance le code, j'obtiens le même résultat, vous voyez, donc qui est ici. Donc la forme bouge bien, donc j'ai plus le même fond. Et je peux m'amuser par exemple Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une animation de type bounce qui était mise en place. La voici. Et ben, je vais faire cette fois-ci une isIn, qui est une autre courbe de fonction. Donc, je relance l'ensemble. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai plus de rebond, mais j'ai une animation qui n'est pas tout à fait linéaire, mais qui va d'un endroit à l'autre. Donc, c'est assez rigolo pour à nouveau découvrir ce moteur et apprendre rapidement à travers JS Fiddle. Donc ça, c'est une première librairie que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors cette librairie permet de faire plein de types de dessins différents, hein, comme on peut le voir ici sur l'exemple. Là, je vais vous parler d'une librairie qui est dédiée plutôt vraiment à du charting. Donc on peut le voir ici. Donc on va aller sur Demo et aller sur iChart Demo, donc pour faire des courbes comme celle-ci. Vous allez voir, c'est assez pratique si vous avez un scénario d'affichage de valeurs, alors que ce soit la bourse, ça peut être des courbes de température comme on peut le voir ici, mais ça peut être n'importe quel type de données que vous allez voir modéliser. Cette librairie, à nouveau, est très très puissante et très simple d'utilisation. À nouveau, on a ici un rendu vectoriel en SVG, mais la librairie supporte également le VML comme Raphael qu'on a vu juste avant pour, par exemple, Internet Explorer 8 ou inférieur. Donc à nouveau, hein, vous pouvez y aller tranquillement en production avec cette librairie. Et on va voir que cette librairie vous propose un ensemble de thèmes associés aux courbes, comme on peut le voir ici. Donc déjà, en termes de rendu visuel, il y a déjà pas mal de boulot qui est fait pour vous. Si vous n'êtes pas un très grand graphiste, vous n'avez pas de ressources de designer sous la main, vous avez déjà un ensemble de thèmes bien fichus. Et si vous voulez découvrir son fonctionnement, et là, pour le coup, ils ont directement pensé à l'intégrer dans JS Fiddle. Alors avant d'aller voir le code et à quoi ça ressemble, fonctionnellement parlant, vous allez voir que non seulement j'ai une courbe ici vectorielle sur laquelle je peux me déplacer et donc je peux le mettre dans n'importe quel type de container qui va auto-scaler quelle que soit la résolution. Donc ça, je peux l'afficher sur une tablette, un smartphone, un PC, un grand écran. J'aurai pas de perte de définition, c'est assez agréable. Et je vais pouvoir également soit le sauvegarder dans un état, on va dire bitmap cette fois-ci, à une résolution donnée, l'ouvrir dans un document PDF. Donc vous voyez. Donc je l'ouvre ici directement dans un document PDF. Donc vous pouvez partager facilement avec vos clients le résultat. Ou alors tout simplement récupérer en tant que SVG le rendu qui est donné pour l'intégrer dans un contenu plus statique dans votre site web ou pour partager avec d'autres personnes. Donc les contrôles sont très puissants. Vous en avez pas mal qui sont à votre disposition. Je vous laisse y jeter un coup d'œil. Je vais vous montrer le fonctionnement. Donc vous l'éditez dans JS Fiddle ici. Vous voyez qu'automatiquement, il va récupérer la librairie jQuery sur laquelle il s'appuie et il va référencer les scripts nécessaires à son bon fonctionnement, donc sur leur propre CDN. Et ensuite, la manière dont ça fonctionne, vous voyez que vous récupérez le conteneur avec jQuery, vous appelez iChart dessus et en fait, il y a un ensemble d'options à positionner, donc le titre de votre graphique, le sous-titre, les valeurs des axes ici en X, donc ça les différents mois de l'année qui sont positionnés. Ensuite, l'axe des Y qui est la température. Et au bout d'un moment, vous avez une série qui est fournie sous la forme d'un format de type JSON qui va donc afficher la série comme on le voit ici. Donc si jamais je modifie par exemple New York là, au lieu d'avoir une température de 24, je fais une valeur stupide, je sais pas moi, de 32, on va dire. Hop, 32, et je relance l'ensemble. On voit bien qu'il y a un pic qui est généré ici. Donc cette valeur-là, aujourd'hui, elle est en côté cliente, en statique. Mais bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de récupérer ces valeurs, par exemple, d'une base de données côté serveur. Donc vous allez envoyer avec un jeu d'API ou des web services les valeurs en JSON. Vous allez les récupérer côté client, l'injecter dans le contrôle qu'on voit ici pour avoir des courbes dynamiques et qui sont assez intéressantes à utiliser côté client sans solliciter le serveur si vous voulez vous amuser à faire ce genre d'interaction avec les courbes. Donc très pratique à utiliser et ensuite vous pouvez faire vos courses dans les options, c'est-à-dire que pour l'instant vous voyez que la légende ici n'a pas de bord, je peux rajouter un bord de par exemple de 2 pixels si je relance l'ensemble, là j'ai un bord de 2 pixels de large, je vais pouvoir au lieu de le mettre à droite, de le mettre à gauche de la courbe. Donc si je relance l'ensemble, c'est passé à gauche. Bref, c'est vraiment très modulaire, vraiment simple d'usage. Je vous invite à y faire un tour. Moi, j'adore ce contrôle-là. Seul inconvénient, c'est qu'il est gratuit pour des usages personnels. Donc si vous avez un blog perso, par exemple, et que vous vendez rien sur votre blog, vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. Si vous êtes une entreprise où ça vous sert également à votre activité commerciale, il faut acheter une licence qui n'est pas très chère, je vous rassure, vu le service fourni en plus. Vraiment, allez-y, jetez-y un œil. d'œil. Alors ça, c'est la partie iCharts. Il existe une autre librairie que j'aime beaucoup également, qui s'appelle D3JS. Donc on vous retrouvez sur d3js.org. Et là, vous avez un nombre d'exemples impressionnants. Donc on va aller sur les exemples. Et j'en ai choisi un que je voulais vous montrer, qui est rigolo, qui est celui-ci. Je ne comprends pas toujours les exemples, hein, pour être honnête, de ce que cela représente, mais je trouve ça assez marrant. Donc vous voyez que là, il y a un rendu vectoriel de données. Je ne sais pas du tout ce que ça représente, mais je trouve ça impressionnant. Et si vous faites CTRL-SHIFT-U dans Internet Explorer 11, ça vous affiche le framerate. Et vous voyez que déjà, pour un contenu qui est relativement statique, il n'y a pas beaucoup d'animation. Sur mon processeur ici, qui est un Core i7 avec un GPU HD 4000, qui est quand même pas mal, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas mal. On arrive à avoir des chutes de framerate déjà sur ce genre de graphique. Je vous rappelle tout simplement qu'on l'a vu ensemble dans le module précédent. SVG n'est pas la technologie la plus rapide pour l'animation et de l'affichage. Donc là, on le voit direct, hein, quand il y a pas mal d'éléments affichés à l'écran, l'air de rien, toutes les courbes sont dessinées. Ça peut commencer à coûter cher. Bref, si on regarde cette librairie. Vous avez énormément d'exemples d'usage. Donc déjà, ce que je vous invite à faire en général, hein, moi quand je rencontre des clients, c'est d'aller sur cette librairie, alors que ce soit iCharts ou D3JS. D3JS qui a le bon goût d'être entièrement gratuit pour le coup et open source. Donc vous pouvez aller jeter un œil et regarder les différents cas d'usage et si ça ne ressemble pas à quelque chose que vous voulez vous-même mettre en place et aller voir éventuellement bah, si les gens qui l'ont utilisé partagent le code source ou ont décrit la manière de l'utiliser. Moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, j'avais besoin d'afficher des courbes vectorielles et donc j'ai été tout en bas. Donc, vous voyez, il y a pléthore d'exemples et à un moment donné, il y a des exemples plus simples comme celui-ci, donc où s'affichent des courbes à nouveau sur le temps. Et vous voyez, l'usage est peut-être un peu plus complexe qu'iCharts pour être honnête sur l'usage, puisque ça implique quand même de temps en temps une pseudo connaissance de SVG de temps en temps. Donc vous allez devoir mettre des attributs, mais c'est pas non plus très compliqué. C'est-à-dire que vous voyez là, à un moment donné, il faut insérer les nœuds SVG. Mais les exemples de code sont relativement bien fichus, et c'est surtout que la librairie est extrêmement puissante, extrêmement modulaire. Et donc, il suffit de regarder un exemple qui ressemble à celui que vous voulez faire, le torturer un petit peu éventuellement à nouveau dans JS Fiddle ou directement dans votre éditeur préféré et en faire ce que vous voulez. Alors, moi, typiquement, je l'ai utilisé dans une démo qui faisait du benchmark Canvas cette fois-ci. Donc, vous pouvez retrouver sur mon blog, je vous partagerai le lien également dans les liens à télécharger dans ce cours MVA. Donc, ce que j'avais fait ici, je m'étais amusé à faire un petit benchmark avec une librairie qu'on va voir juste derrière côté Canvas pour tester les performances de votre machine, donc afficher un certain nombre de sprites. Donc vous voyez, j'ai un ensemble de tests qui durent normalement un certain nombre de temps, donc je vais les zapper pour pas que vous les voyez tous. Donc là, je testais avec ou sans ombre pour voir les performances de la machine. Ensuite, je vais afficher de plus en plus de sprites pour voir quelles sont les limites. Donc là, on va voir que sur 1000 sprites affichés, la balise Canvas sur ma machine tient les 60 images secondes, mais arrivé sur 5000 sprites par exemple, on sait que si on veut faire un jeu vidéo, bah, ça commence à être peut-être limite puisque je vais être dans les peut-être 20 images secondes. Mais justement, pour avoir une idée plus précise de cette courbe et l'évolution dans le temps, on s'est amusé avec donc mon ami David Catu toujours à faire ce petit benchmark, donc à faire un petit framework qui allait mesurer les performances d'affichage sur le temps. Et on s'était dit, bah, pour faire finalement afficher la courbe, autant utiliser des librairies connues. Donc on a utilisé D3JS. Et donc on obtient ce genre de courbes, vous voyez, qui sont l'évolution du FPS sur le temps. Donc ça nous permet de voir si le FPS est relativement stable. Et là vous regardez finalement que j'oscille entre 28 et 30. Donc c'est relativement stable. Et c'est surtout que si je m'amuse à redimensionner la fenêtre, on l'a mis de manière totalement flexible. Le contenu vectoriel est particulièrement intéressant dans ce cas-là où, bah, quel que soit l'utilisateur qui va arriver, quelle que soit la résolution, il aura une définition qui sera parfaitement adaptée à son écran. Et donc, si on regarde les courbes comme ça, on voit bien des différentes variations. Donc, on a utilisé exactement l'exemple de tout à l'heure. Line chart, on l'a transformé légèrement pour nos besoins. Donc c'est exactement la démarche que vous devez avoir. Allez faire vos cours sur D3JS ou iChart, regardez le fonctionnement avec un JS Fiddle éventuel et réintégrez-le dans votre projet. C'est vraiment pas compliqué du tout et c'est relativement bien documenté à chaque fois. Donc voilà côté librairie. Alors moi je voulais maintenant vous parler d'outils. Alors il y a deux outils qui sont connus pour faire du SVG. Le premier c'est Inkscape, donc je l'ai le lien sur mon bureau ici. On va le lancer. Le voici. Et donc c'est un outil gratuit que vous pouvez télécharger facilement sur Internet. Donc je vous invite à le faire. Et donc vous pouvez, alors je ne suis pas un graphiste, hein, donc soyez indulgents. Donc vous pouvez faire par exemple un cube, c'est rigolo, en vectoriel. On va mettre une petite étoile ici, hop, une deuxième, allez soyons fous, je vais la bouger comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Un cercle rouge moche. Voilà, c'est parfait. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir le sauvegarder sous le format SVG. Donc je vais le mettre sur le bureau, par exemple. C'est parfait. Et le réintégrer dans votre projet. Donc je l'ai ouvert deux fois. Hop. L'ouvrir dans IE, comme on peut le voir ici, dans votre navigateur préféré. Ou l'intégrer dans un projet de la même manière qu'on avait vu dans le premier module. On peut le référencer en tant qu'image. Ou récupérer le SVG qui est généré. Regardant le source ici. Et l'intégrer directement dans son document HTML. Donc ça, c'est un outil gratuit, ce qui évite de taper toutes les primitives à la main, quand même, c'est quand même important. Et il y a un deuxième outil qui est pas mal aussi, qui s'appelle SVG Edit. Donc tapez ça dans votre moteur de recherche préféré. Et donc on le trouve ici sur code.google.com. Et vous avez la dernière version stable en ligne, donc directement dans le navigateur, vous voyez ce coup-ci. Alors autant le premier est un client lourd, le deuxième est dans le navigateur. Et de la même manière, je vais pouvoir faire des différentes primitives de dessin. Hop, je vais faire celle-là par exemple. Pas trop ce que ça fait. Il faut savoir s'en servir aussi, hein, c'est tout un autre problème. Donc je vais prendre celui-là. Voilà, je vais changer la couleur. Voilà, c'est très très moche, hein. Et je vais avoir le SVG qui est présent ici, que je vais pouvoir recopier à nouveau. Et ce qui est rigolo, c'est que la performance cette fois-ci a été faite directement dans le navigateur. Donc à nouveau, un code qui est libre disposition sur googlecode.com. N'hésitez pas si un jour vous avez besoin de faire votre propre éditeur, je ne sais pas pour quelle raison, mais allez faire un tour pour voir comment eux ils ont fait leur éditeur et vous inspirer du code source. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc ça conclut la partie que je voulais vous montrer sur SVG, qui sera la plus longue certainement de ce module, puisque c'est dans les scénarios business, à mon avis, le cas le plus intéressant, c'est d'utiliser SVG. Donc je vous rappelle, Raphaël JS, hein, je vous mets ça à titre de référence pour que vous puissiez télécharger les slides et aller directement sur les URL que je vous ai montrées. Donc elle supporte à la fois SVG et VML, et puis j'ai mis utilisable à la jQuery, parce que vous irez voir les exemples de code, si vous avez l'habitude de jQuery, ça devrait vous parler. iCharts qui utilise également jQuery et qui est vraiment plus spécialisé sur du charting, qui est par contre payant pour une utilisation commerciale, mais qui est vraiment pas très cher par rapport aux services proposés. D3JS qui est de plus en plus connu maintenant, qui est uniquement en SVG par contre et qui est gratuite. Donc là, vous n'avez pas de support d'Internet Explorer 8. Inkscape, qui est donc un logiciel de génération SVG en mode client lourd, hein, sur le bureau, qu'on trouve sur toutes les plateformes, pas que sur Windows. Et qu'on a également SVG Edit, qui lui tourne partout, où il y a un navigateur qui supporte SVG directement dans le navigateur. Donc déjà pas mal de choses. Je pense qu'avec ça, ça couvre déjà une grosse partie des besoins potentiels que vous aurez autour de cette technologie. Maintenant, passons un peu côté Canvas, et là ça va être plus orienté sur des choses type jeu vidéo, hein, ou en tout cas affichage on va dire plus léger, ben, on va pas afficher des courbes de température ou des données financières, quoique on pourrait très bien avoir des scénarios intéressants. On va commencer par une librairie que j'affectionne particulièrement, qui est Create.js. Donc on va aller sur le site web directement. Vous allez sur create.js.com et en faisant ça. Vous voyez l'URL qui est ici. Vous allez voir sur le site. Et j'ai longtemps utilisé cette librairie pour créer un petit jeu de plateforme qu'on a vu ensemble au tout début du premier module. Et il y a pas mal de démos qui sont disponibles. Donc on va les voir ensemble. Et vous vous souvenez sur le premier module et sur le deuxième également, je vous indiquais que dans Canvas, vous êtes responsable de faire toutes les interactions utilisateurs vous-même. Là où SVG, finalement, vous faisiez une abstraction de tout ça à travers le navigateur. Là, en fait, Easel.js aide à combler ce trou qu'il y a. C'est-à-dire que typiquement, je peux prendre un élément de type bitmap et le bouger à l'aide de la souris, puisqu'il y a des événements souris qui sont branchés dessus. Donc, C'est lui qui va s'occuper de se souvenir où il a placé un des éléments dans le canvas. Et lorsque vous allez cliquer à la souris, il va déplacer tout simplement l'élément à l'intérieur. Et si on regarde le code source, donc vous avez toutes les librairies éclatées de Easel.js qui sont référencées. Donc les exemples de code sont très parlants. Et si on regarde rapidement la manière dont ça fonctionne, on va créer la librairie Create.js avec un élément canvas en paramètres. On va récupérer l'image ici de la petite fleur qui est daisy.png. Et une fois que l'image a bien été chargée, on va aller sur l'event handler qui s'occupe d'en créer plein sur l'écran, hein, avec différentes positions aléatoires et puis différentes rotations pour vous donner l'impression que c'est pas tout à fait le même. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est sur chacun des éléments, on a un élément on qui va dire lorsque je vais faire un mouse down, hein, un clic gauche de la souris, je vais pouvoir récupérer l'élément sur lequel j'ai cliqué et le faire bouger avec ce code-là assez fin simplement. Alors là, je récupère tout simplement la position et j'ai en cas de déplacement, je vais bouger ici mon élément et je vais dire que je l'ai mis à jour. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous avez un scénario de type canvas et que vous voulez pas vous galérer à faire vous-même récupérer l'élément de la position de la souris, faire ses calculs, ce genre de choses. C'est pas non plus très compliqué, mais déjà la librairie peut vous aider. Alors pour être honnête, cette librairie est quand même plus utilisée dans un scénario de type jeu vidéo. Donc on va passer tout de suite à un exemple qui est assez amusant, où là on va prendre des sprites et des feuilles de sprites qui nous permettent de donner l'illusion d'animation, hein, c'est exactement comme des dessins animés. Et en fait, je vais pas rentrer dans le détail sur cette partie-là, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir dans un cours MVA qui sera spécialisé sur la création d'un petit jeu de plateforme utilisant cette librairie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter sur d'autres exemples. Là, c'est un petit jeu, donc vous pouvez aller voir le code source, moi c'est la première fois que j'ai appris. C'est rigolo. Je vais remettre le son. Là, ce qu'on peut voir également, c'est que la librairie permet de faire du traitement d'image. Alors, vous vous souvenez, j'espère que dans le module 2, je vous expliquais que l'avantage de Canvas, c'est la possibilité de faire des traitements sur chacun des pixels. Et ben là, on peut changer le contraste, l'éclairage, rajouter des effets de flou par-dessus. Donc, la librairie permet de le faire. Ce qu'on peut voir également, c'est que on a la possibilité de dessiner dans le canvas. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire facilement avec du canvas. Et pour terminer, vous regarderez dans la démo 11, vous avez un ensemble de docs en ligne qui vous explique comment faire des traits tout bête avec la librairie, mais également faire des gradients, des formes assez simples. Bref, il y a un petit peu de documentation de cette manière-là. Là, on voit le sprite qu'on voyait tout à l'heure qui se met à sauter tout seul. Les effets de flou gaussien qu'on voit tout à l'heure. Ben, il y a des buts de documentation et d'une manière générale, la documentation de Cray.js est assez bien faite. On trouve de plus en plus de tutoriaux. D'ailleurs, certains sont sur mon blog pour vous expliquer à faire des jeux avec ça. Donc ça, c'est la partie Canvas 2D. Maintenant, on va basculer dans l'univers merveilleux de la 3D. Et alors là, la librairie la plus connue actuellement s'appelle Free.js. Alors, Free pour 3D, bien sûr. Donc, vous retrouvez cette librairie sur freejs.org, qu'on voit ici. Cette librairie, alors vous avez pas mal d'exemples sur le site, hein, très impressionnant sur le site. Cette librairie est gratuite, open source, qui est maintenue par quelqu'un qui s'appelle Mister Doob, qui est un espagnol très doué depuis quelques années sur ce domaine. Et vous pouvez aller jeter un œil sur les différentes démos qui utilisent cette librairie. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez démarrer l'usage, c'est vous allez sur la partie Getting Started ici et vous n'avez plus qu'à suivre finalement les instructions. Alors moi, ce que je vais faire, c'est plutôt que de créer mon document comme d'habitude, ce que je vais utiliser, c'est JS Fiddle. Donc je vous incite à faire de même. Donc si vous voulez découvrir pour la première fois FreeJS, vous faites ça. Vous allez sur le site, vous allez dans la partie Getting Started, vous allez sur JS Fiddle. Sur JS Fiddle, il faut référencer la librairie FreeJS qui est ici. Hop, dans la version R54. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à suivre les instructions. Donc on me dit, récupère ce morceau de code qui va créer une scène qui a fait un ensemble de choses. Donc le voilà. Donc la notion de scène est importante en 3D, donc il faut avoir un minimum de notion 3D et de ce que c'est une caméra. Mais à nouveau, vous allez voir, si vous vous souvenez dans le premier module, la complexité qu'on avait avec WebGL pour créer tout de zéro, bah là vous voyez, en très peu de lignes de code, j'ai la possibilité de rendre déjà un petit peu de 3D. Il faut savoir que FreeJS a plusieurs types de moteurs de rendu quelque part. Celui qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr celui qui utilise WebGL, mais il a la capacité de rendre également dans un canvas 2D. Si jamais votre navigateur ou votre périphérique ne supporte pas WebGL, il peut faire un rendu non accéléré du coup dans du canvas 2D, hein, donc en simulant finalement la 3D. Alors c'est pas très performant, faut faire attention à son usage. Et là, si je lance tout ça, j'ai une zone de dessin ici qui est en 3D accéléré, qu'on pour l'instant il se passe pas grand-chose dedans. Donc on me dit ensuite, bah, continue, tu vas créer une géométrie qui est un cube. Tu vas lui associer ce qu'on appelle un matériau. Alors un matériau, c'est une texture, une couleur, hein, c'est juste la façon dont chacun des pixels de chacune des faces va être colorié même plutôt. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle un objet 3D, ce qu'on appelle un mesh. On l'ajoute à la scène, on donne un endroit de position pour la caméra et on rend l'ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, ben on lance l'ensemble. Et là, on se dit, il se passe toujours rien. Alors c'est logique, faut pas être stressé, c'est que pour l'instant, je résume, j'ai créé une scène, j'ai ajouté une caméra à cette scène, je lui ai précisé que je voulais rendre en WebGL, que j'ai créé une géométrie de type cube, sur cette géométrie, je vais bientôt positionner un matériau d'une couleur, donc là on voit que c'est du vert, et au final, mon cube, je le crée, je l'ajoute à ma scène, je positionne ma caméra. Ce qui reste à faire, c'est ce qu'on appelle la boucle de rendu, ce qu'on doit gérer, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne lui a pas dit de dessiner l'ensemble à l'écran, donc ça va être l'étape supplémentaire, c'est qu'il nous faut une petite fonction JavaScript qui va s'occuper de tourner toutes les 60 millisecondes, toutes les 16 millisecondes si possible, donc 60 images secondes. C'est ce qu'on fait ici. Je lui demande de rendre la scène et que ensuite je vais relancer en boucle cette fonction-là avec un request animation frame. Et donc si je lance l'ensemble maintenant, je vois juste une des faces du cube merveilleux qui est vert. Bon, ce qui reste à faire, c'est que pour l'instant, je ne peux pas bouger la souris. Hein, par défaut, on n'a pas la possibilité de bouger directement à la souris. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je fasse une animation du cube pour que je puisse voir réellement ce cube-là. Donc je vais le mettre entre ces deux lignes-là. Hop. Et je vais relancer l'ensemble. Et là, merveilleux, vous voyez le cube vert qui est affiché. Là, on n'a pas d'éclairage, on n'a pas de truc complexe. Mais vous voyez la manière d'utiliser FreeJS, qui est assez simple d'usage, et qui vous abstrait énormément de la complexité qu'on a vue au début avec les shaders, avec Vertex Shader, Pixel Shader, l'initialisation de tous ces shaders. Bah voilà, on a une abstraction de ce modèle-là avec FreeJS. Alors, vous trouverez pléthore d'exemples sur Internet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de documentation. On va basculer sur une autre librairie qui est à mon avis bien mieux, puisque c'est la nôtre, sur laquelle je contribue. Donc avec tout le respect que je dois à FreeJS, hein, qui est très très bien, on va voir cette fois-ci BabylonJS. Donc vous allez sur le site babylonjs.com, donc une librairie qu'on héberge également sur GitHub, open source, gratuite. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette librairie. Et le plus simple pour la découvrir, c'est soit d'aller dans les wikis, ou sur notre GitHub où on a un ensemble de tutoriels à suivre, soit vous allez sur le Playground, donc on s'est amusé à réaliser, David a fait ce superbe outil, et l'idée c'est vraiment de vous montrer le fonctionnement de notre moteur, un peu de la même manière que JS Fiddle, la possibilité de manipuler le code directement et de le découvrir de cette manière-là. Vous pouvez sauvegarder les URL et les partager sur notre forum si vous avez des questions ou avec un collègue avec lequel vous travaillez. Et nous, par défaut, on a une gestion des interactions utilisateurs qui est gérée avec la caméra. Donc je peux tourner, vous voyez, avec la souris autour d'une forme, ce qui n'est pas directement prévu dans FreeJS. Donc la grosse différence entre nos deux moteurs, c'est que FreeJS était prévu à l'origine vraiment pour afficher de la géométrie d'une manière générique. Là, on a fait le choix, nous, vraiment de s'orienter sur un usage plutôt jeu vidéo, avec déjà des interactions qui sont prévues pour vous. On vous simplifie énormément le travail là-dessus. Donc on est vraiment plus typé jeu vidéo, même si on peut faire, comme vous avez vu dans la première vidéo, des choses qui ne sont pas forcément liées au jeu vidéo, hein, avec la démo superbe de Dot Vision dans les montagnes. Donc gardez en tête que la différence, c'est que nous, on essaie d'être plus orienté jeu vidéo, très orienté sur les performances et simplicité d'usage avant tout. Donc là, si par exemple, au lieu de créer ce merveilleux Torus Note, je décide de créer une boîte, ben je vais l'appeler boîte et je vais lui dire qu'elle fait par exemple deux de côté. Je vais relancer l'ensemble et là j'ai une boîte qui est superbe. On a le même résultat qu'avec le cube de tout à l'heure de FreeJS. Et vous voyez un code qui est relativement similaire. Donc on crée une scène. Donc ça c'est vraiment le principe même dans toute la 3D. Nous on crée un type de caméra qui est arc rotate, c'est-à-dire que je tourne autour d'une sphère, si vous voulez, au niveau de la caméra pour faire le tour d'un objet, tout en étant centré sur cet objet-là. Et donc, on gère directement la gestion de la souris grâce à cette ligne de code-là. Donc, si vous l'enlevez, vous pouvez plus bouger à l'aide de la souris. On a l'éclairage qui est géré. On a la création d'une boîte qui est ici. Et ensuite, on a un matériau standard qui a une couleur pour le mettre en place. Alors, il y a différents types d'exemples qui sont disponibles. Vous avez la possibilité de voir les différentes primitives qui sont disponibles au niveau de notre moteur, donc une sphère, un plan, un cylindre, ou même des lignes désormais. On peut dessiner des lignes directement dans notre moteur. On a ensuite la possibilité de gérer des textures, comme vous le voyez ici. Alors des textures qui sont semi-transparentes, des textures que vous allez répéter, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc à chaque fois, les exemples de code sont disponibles sur la gauche. Donc il suffit de le lire pour avoir une première découverte en plus de tous les tutoriels qu'on a créés. Ça permet d'aller rapidement dans la découverte. On a ce qu'on appelle un moteur de collision directement intégré. C'est ce que n'a pas FreeJS par défaut. C'est-à-dire que je peux me balader ici comme dans un FPS et ne pas passer à travers la boîte. Pour quelle raison? C'est que cette boîte a quelque part une propriété qui a été activée. Typiquement, bah là, je demande à la caméra de vérifier que je rentre à travers les éléments ou pas. Donc si je le mets à false cette fois-ci, je vais pouvoir passer à travers la boîte et donc je teste plus les collisions. Donc c'est très simple à mettre en place. Vous l'activez sur la caméra, vous l'activez sur l'élément en question hein, qui est la boîte et ben, on le teste pour vous. Et pour finir, on a la possibilité d'importer des modèles 3D que vous allez générer depuis Blender, 3D Studio Max, ce genre d'outils, donc de manière assez simple. Et là, vous voyez, en très peu de lignes de code, hein, elles sont ici, j'ai la possibilité d'importer un objet 3D qui s'appelle skull.babylon, donc qui est notre format de fichier. Et une fois qu'il est dedans, bah, je vais pouvoir, avec la molette de souris, zoomer à l'intérieur, me déplacer autour de ma arc rotate, comme on le voyait tout à l'heure, et aller à l'intérieur de mon merveilleux crâne, qui n'est pas le mien, je vous rassure, mais qui est assez sympathique. Donc, pas mal d'exemples d'utilisation. On a aussi pléthore d'exemples dans le GitHub. N'hésitez pas à faire un tour pour apprendre tout ça. Donc, si je retourne sur la présentation, je vous ai résumé sur ce slide les trois librairies que je vous ai montrées. CrayJS, plutôt orienté pour du jeu 2D casual, mais pas que. Vous avez vu qu'on a également la possibilité de faire du traitement d'image, de faire du drag and drop d'éléments sur le canvas 2D. FreeJS, qui est certainement la librairie la plus connue aujourd'hui pour faciliter l'utilisation de la 3D et de WebGL d'une manière générale. Et BabylonJS, hein, dont on n'est pas peu fier, qui est utilisé par Ubisoft notamment avec le projet Assassin's Creed, qui est plutôt orienté gaming, mais pas que non plus, hein, puisqu'on a aussi des exemples de personnes qui font. Alors, on a le cas des montagnes merveilleuses d'Haute Vision, mais aussi des gens qui font des configurateurs d'appartements par exemple avec notre moteur. On le voit de plus en plus dans différents projets, des catalogues d'objets avec une société qui s'appelle Socrate qui l'a utilisé. Bref, on voit notre librairie de plus en plus utilisée pour autre chose que du jeu, hein, puisque ça reste un moteur malgré tout relativement générique pour faire de la 3D. Et donc cela conclut ces trois modules sur ces trois merveilleuses technologies. J'espère que cela vous a permis d'avoir une meilleure compréhension de leurs usages. Donc c'est un premier pas pour aller vers la maîtrise complète de ces technologies. Mais là, bah, maintenant, une fois que vous avez suivi ces trois cours, bah, vous en savez autant que moi. Donc maintenant, évitez de venir me poser des questions. Je serai plus y répondre. Vous allez devenir meilleur que moi. Et m'envoyer un mail maintenant pour me dire, bah, je suis meilleur que toi, David. Maintenant, tu peux venir me poser des questions. Et je vous utiliserai à mon tour en échange de ces trois cours MVA. Je vous remercie et à bientôt.